entre autres directeur de la collection Pluriel et collaborateur de la revue Esprit. Alors du coup, pour qu'on vous explique un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'on voulait quelqu'un qui ne soit pas nécessairement directement un professionnel, simplement pour nous sortir peut-être un petit peu justement de notre pratique professionnelle et de pouvoir un peu élargir toutes les problématiques qu'on a pu voir aujourd'hui à des problématiques peut-être encore plus générales, histoire de nous ouvrir un peu l'esprit et de rester sur des questionnements par rapport au partage social de l'information. À vous.
Merci. Bon, on avance dans l'après-midi, donc je vais essayer de ne pas être trop long et de ne pas être trop ennuyeux non plus. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit au cours de la journée et j'ai essayé de cerner un fond un certain nombre de points qui, à mes yeux en tout cas, pouvaient apparaître comme étant les nœuds les plus vifs de à la fois de vos interrogations, mais peut-être aussi d'interrogations qui trouvent un retentissement dans d'autres secteurs de la société et dans d'autres champs d'activité que ceux du travail social. Alors le premier point, c'est peut-être d'arriver à distinguer un certain nombre de choses qui ont été évoquées à chaque fois, mais pas toujours avec une totale clarté, disons, dans la distinction. Il me semble que ce problème du partage de l'information et du secret, il a été mis sur le devant de la scène, au fond, avant les lois de 2007, par la loi de janvier 2002, effectivement, sur l'accès des personnes au secret les concernant, et que ça a été la première interpellation du travail social et des travailleurs sociaux à cet égard, c'est-à-dire que, mince, qu'est-ce qui va se passer si les gens parviennent à lire ce que j'ai écrit sur eux ? Alors, on en a eu quelques exemples qui ont été rapportés ici, un peu caricaturaux, mais enfin, il faut reconnaître qu'une bonne partie des rapports, de temps en temps, si on s'imagine que les gens vont les regarder, on va peut-être les écrire, effectivement, de façon un peu différente. C'est en train de devenir la pratique, c'est en train de changer. Je crois qu'il y a là aussi une dimension qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'interpelle pas forcément, pas seulement les individus dans leur pratique quotidienne et dans la rédaction de leurs rapports, mais la représentation qu'on se fait du travail social et au fond la question de qui avons-nous mandat. Alors évidemment, on a mandat de nos institutions, les différentes institutions dans lesquelles on a parfois un mandat judiciaire, mais on a aussi d'une façon ou d'une autre un mandat de la personne. Et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête et d'avoir aussi cette interpellation-là en tête, parce que quand on va en venir à la question du partage d'informations et du partage du secret entre institutions ou entre travailleurs sociaux et autres professionnels, mais autour d'une même personne ou d'une même famille ou d'une même situation, et bien à ce moment-là, il faut se souvenir qu'au fond, la question est effectivement celle de l'interpellation par la personne concernée elle-même, qu'on l'appelle usager ou bénéficiaire ou tout ce qu'on veut, mais d'abord la personne. Deuxième niveau, là où effectivement la loi de 2007 a beaucoup interpellé, et d'ailleurs c'était très présent dans la présentation qu'on a été faite, les lois de 2007 ont beaucoup interpellé, c'est que d'un côté, elle semblait, la loi sur la protection de l'enfance, encadrer et au fond mettre en forme une pratique qui de fait existait déjà mais qui n'avait pas vraiment de statut, et puis d'un autre côté elle ouvrait la voie à des choses qu'on a vues par la suite, notamment dans le cas des travailleurs, des personnes sans papier, c'est-à-dire à des questions qui débouchent très directement au fond sur à la fois des conséquences extrêmement graves pour les personnes concernées et éventuellement sur des mises en cause judiciaires et pénales des travailleurs sociaux, en tout cas sur un risque de mise en cause judiciaire et pénale. Alors je crois que on a là tout le partage au fond qui peut y avoir, qui n'est pas toujours très clair, dans ce cas-là c'est relativement clair, mais entre ce qui est le partage d'informations et d'autre part la dénonciation d'un crime ou d'un délit. Il est évident, alors bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, sur le fait qu'il y a des situations où vous êtes tenu de dénoncer des crimes ou des délits, il y a des situations où les choses sont évidemment en cas de danger éventuel, de danger potentiel, où la part d'appréciation est beaucoup plus grande, mais on est là dans l'ordre, disons, de la question pénale à la limite. En ce qui concerne simplement la question des sans-papiers, il est clair que les formes d'intimidation qui sont en cause à travers précisément l'usage d'une loi, dont il faut bien dire quand même qu'elle s'apparente à une loi scélérate, sont des choses qui doivent être dénoncées, et pas simplement, je crois, à travers des pratiques individuelles, mais à travers des manifestations collectives, et y compris à travers des prises de responsabilité d'institutions. Je pense que c'est très important, là, ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est vrai d'une façon générale, mais je crois que c'est encore plus vrai dans ce cas particulier, que les cadres, que les institutions, que les associations, que les structures se mobilisent aux côtés des travailleurs sociaux en cause quand il s'agit de situations de cette nature. Enfin, troisième cas, donc, celui du partage dans l'accompagnement des personnes, qui est le cas le plus fréquent, qui est effectivement ce qui a le plus occupé les débats. Et je crois que cette question du partage dans l'accompagnement des personnes, elle renvoie précisément à toute une série de débats qu'on a pu voir émerger sur les pratiques, sur comment on questionne nos pratiques, comment on arrive à créer des structures ou des systèmes d'échange sur les pratiques, etc., etc. Je voudrais retenir deux, trois points de ces débats-là. Premier point, la question justement de l'échange sur les pratiques. C'est-à-dire, je crois que ce qu'on peut appeler la supervision ailleurs, dans d'autres contextes et dans d'autres, avec un autre vocabulaire, peu importe. C'est-à-dire, comment on arrive à avoir, et quand on ne les a pas, à créer, à obtenir, encore une fois, de la part des différentes structures, des lieux où les pratiques font l'objet régulièrement de mise au point, d'échanges, de manière à avoir, au fond, pas simplement de façon à ne pas être tout seul, même si c'est très important de ne pas être tout seul dans ces décisions-là, mais d'avoir aussi, petit à petit, au fond, la création d'une espèce de corpus d'expériences, d'exemples qui peuvent servir de jurisprudence, un petit peu, dans un certain nombre de cas. Et donc, petit à petit, donner, dans tel ou tel service, dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel cas, un peu une doctrine, au fond, de l'emploi d'un certain nombre de renseignements. Deuxième direction qui me paraît très importante, qui a été évoquée aussi à propos d'un certain nombre d'autres intervenants et d'autres institutions, le fait que je crois que les travailleurs sociaux sont particulièrement éclairés et à vif sur ce sujet-là, ont une conscience très vive de ces questions-là. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres professions, du moins d'une façon générale. Ça ne veut pas dire que les gens ne font pas leur travail, ça veut dire qu'à cet égard-là, il n'y a pas eu, je crois, dans d'autres structures et dans d'autres institutions, le questionnement qu'il y a eu dans le travail social. Je pense, par exemple, à l'éducation nationale, je pense, par exemple, à la police. Et je crois que là, il y a aussi à apporter aux autres aussi la nécessité d'un questionnement quand, parfois, vous avez le sentiment que c'est des institutions ou des structures qui ne portent pas ce questionnement-là. La responsabilité des institutions, je l'ai évoqué, j'y reviens. Je crois que c'est très important, là encore, que ça ne soit pas simplement une préoccupation professionnelle de la personne concernée à un moment donné par le partage d'une information concernant un individu, mais que ça soit quelque chose qui soit beaucoup plus large, qui soit un questionnement des institutions et des structures, quitte à ce que, dans la pratique, précisément, les questions soulevées aboutissent à questionner ces structures ou ces institutions sur les fins qu'elles poursuivent, sur la manière dont elles s'y prennent, sur, au fond, les problèmes qu'elles rencontrent et les politiques qu'elles mettent en œuvre. Parce que derrière, il y a quand même toujours des politiques qui sont mises en œuvre. Et je crois que cette dimension politique du travail social doit être, à un moment ou à un autre, remise en cause ou questionnée. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle ne soit pas bien fondée, mais ça veut dire qu'au moins, il faut s'interroger sur la question. Et puis enfin, la question qui a été aussi évoquée à plusieurs reprises, qui est celle du fichage, qui est celle du recours à des outils informatiques. Alors je voudrais juste, de ce point de vue-là, faire une remarque. Il me semble qu'il y a une différence relativement importante entre ce qui est de l'ordre du recueil d'informations anonymées ou anonymes peuvent avoir une utilité à des fins statistiques, et qui, de ce point de vue-là, à la fois pour l'efficacité de l'institution, mais parfois aussi pour faire apparaître des phénomènes. Je pense au débat qui a cours aujourd'hui sur la modification d'un certain nombre de statistiques publiques, à la mission que dirige François Héran. On verra ce que son rapport donnera. Mais il peut y avoir, à un moment donné, nécessité de mettre en évidence, de manière statistique, un certain nombre de régularités, disons, dans des dysfonctionnements, et ça peut être très utile. Et puis, ce qui est la constitution de fichiers nominatifs, qui, elle, est éminemment problématique, évidemment, et qui doit, je crois, nous conduire, dans la plupart des cas, à refuser de renseigner des demandes de fichiers nominatifs, quels qu'il soit, sauf dans certains cas très précis. De façon générale, on a évoqué dans le débat la question du code pénal et la question des infractions pénales à un moment. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important dans la justice que le code pénal, je le sais pour m'être un peu frotté à un moment donné précisément à la justice pénale, c'est la procédure pénale. Et je crois que la question de la justice est beaucoup plus affaire de procédure la plupart du temps que le code. Vous savez, les codes, c'est simplement des barèmes, c'est des échelles. La procédure, c'est ce qui correspond très précisément à la manière dont on va mettre en œuvre toute une série de démarches de façon à pouvoir inculper ou pas une personne, de façon à pouvoir justifier ou pas le traitement qui va lui être proposé. Et je crois que dans un certain nombre de cas, on est face à des questions qui sont beaucoup plus des questions de procédure. Il me semble que, par exemple, il est inutile de songer à supprimer les machines à café dans les services sociaux. Ça serait inutile. Qu'en revanche, des informations qu'on a pu recueillir à l'occasion de bavardages que tout le monde aura et que tout le monde a, ne soient pas petit à petit sédimentées en réputation de telle ou telle famille ou de telle ou telle personne. Bon, on sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que c'est comme ça que petit à petit il y a des noms comme ça qui deviennent un peu emblématiques et qui se transmettent d'ailleurs une fois que quelqu'un est parti, il y a le successeur, etc. Et ça attache évidemment aux personnes des réputations absolument catastrophiques. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles soient toujours imméritées, la question n'est pas là, mais la question est que là, la procédure me paraît tout à fait défaillante. Donc, essayons aussi de savoir, dans les informations dont on a pu être le dépositaire, soit par hasard, soit parce que les personnes nous ont confié des choses, etc., qu'est-ce qui, dans le problème concerné, relève d'une procédure précise et qui fait que tel ou tel type d'information peut être donnée. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'informations, ça veut dire quelles sont celles qui peuvent être et qui doivent être communiquées. Et pour ça, il faut se doter de procédures très précises de manière à... Et je pense que justement, ces rencontres ou ce travail collectif doit permettre d'élaborer, au fond, des procédures, des chartes, enfin des éléments, des outils qui permettent de travailler à partir de ça et de dire, voilà, ce qui peut être partagé, ce qui ne peut pas l'être. Et évidemment, ça diffère d'un service à l'autre, d'un problème à l'autre, etc. C'est pas la même chose s'il s'agit de travailler à des hébergements ou s'il s'agit de travailler à des problèmes de, disons, de prévention concernant la petite enfance ou l'enfance. Donc je crois qu'il y a là toute une série d'éléments qui permettent petit à petit, au fond, d'arriver au niveau des pratiques, à se doter encore une fois d'un corps de doctrine, d'un certain nombre de procédures de référence qui sont tout à fait importantes. Au-delà de ça, et si on va un petit peu plus loin dans l'analyse de ce qui se joue aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a la mise en place, au fond, peut-être d'une forme de contrôle social. Je ne suis pas sûr que ça soit du contrôle social. En tout cas, ce n'est pas du contrôle social au sens où ça pouvait l'être dans l'acception classique, disons, du mot de contrôle social, et peut-être aussi dans un fonctionnement plus ancien du travail social. En gros, il y a eu un moment où, et c'était le moment où triomphaient notamment les analyses de Michel Foucault dans Surveiller et punir, le moment où la revue Esprit avait consacré un livre à cette question, un numéro à cette question qui s'appelait « Pourquoi le travail social ?». On avait eu une réflexion très critique dans le champ du travail social sur précisément cette question du contrôle social, sur la manière dont les travailleurs sociaux étaient appelés à concourir à ce contrôle social et d'une certaine façon à le renforcer, avec une vision encore une fois très critique des formes de domination sociale qui étaient à l'œuvre dans ce contrôle social-là. Il me semble que quel que soit le bien fondé, disons, de cette critique, peu importe ici, mais cette analyse-là reposait sur l'idée que le travail social consistait essentiellement à proposer aux individus une norme sociale et au fond à les mettre un peu à la norme sociale, à dire pour que les individus soient... puissent avoir le droit d'exister dans cette société, ben il faut qu'ils obéissent à un certain nombre de normes qui soient conformes à un certain nombre d'habitudes. Alors, ces normes concernent les formes de vie, les formes d'économie familiale, concernent les différentes attitudes possibles, concernent évidemment le rapport au travail, concernent évidemment le rapport aux stupéfiants, etc., etc. Enfin, on voit très bien comment les choses se jouent et comment, au fond, il y avait une espèce d'immixtion relativement tolérée dans l'intimité des personnes de façon à pouvoir leur permettre de rejoindre la norme sociale. C'était un phénomène très ambivalent parce qu'être à la norme, il y avait un côté évidemment de soumission ou en tout cas il y avait une forme à travers cette exigence s'exerçait une forme de domination. Mais c'était aussi l'idée que quand on était à la norme, on était d'une certaine façon... à même d'être émancipé. Il y avait un mouvement émancipatoire là-dedans. Les populations qui n'étaient pas à la norme étaient perçues comme des populations qui, au fond, étaient des populations relativement résiduelles et qui finiraient par rejoindre le grand train des populations, disons, salariées normales, entre guillemets, normales étant précisément ce qui qualifiait les populations qu'il s'agissait d'arriver à rejoindre et à imiter. Je crois que c'est pas du contrôle social dans ce sens-là qu'on a aujourd'hui. C'est pas du contrôle social dans ce sens-là qu'on a aujourd'hui pour une raison entre autres, c'est que ce qui s'est défait, on l'a bien vu lors du second numéro spécial de la revue Esprit qu'on a fait, justement en référence à ce premier-là qui s'appelait « À quoi sert le travail social ?» et non plus « Pourquoi le travail social ?» La norme sociale s'est dissoute. Aujourd'hui, il y a, je dis pas qu'il n'y a pas de norme sociale du tout, mais enfin, elle est quand même beaucoup moins prégnante, et chacun d'entre nous, d'ailleurs, sait très bien comment nous pouvons mener notre vie à peu près à notre guise, sans avoir forcément besoin. Il y a eu à la fois une dissolution des normes sociales, une dissolution des références communes, et que donc, d'une certaine manière, la question de savoir effectivement à quoi sert le travail social est une question qui s'est posée. Est-ce que sa référence ultime, c'est l'autonomie pure de l'individu, ou est-ce que sa référence ultime, c'est la capacité de conduire ces individus vers des perspectives individuelles, vers des perspectives où ils sont eux-mêmes en charge de leur propre existence, bref, vers des perspectives, disons, plus responsables. Et je crois qu'à travers cette idée de la responsabilité, se joue quelque chose qui se partage davantage, me semble-t-il, autour de la thématique du risque et de la thématique de la responsabilité. On voit de plus en plus, à travers les injonctions qui vous sont faites et qui sont faites, disons, aux institutions du travail social, quelque chose qui est à la fois d'un côté une demande de mise en responsabilité des personnes et des individus, et d'un autre côté une demande de la part de l'ensemble de la société de réduction des risques que font courir ces individus déviants à l'ensemble de la population. Le risque pouvant être d'ailleurs simplement un sentiment, le sentiment d'insécurité par exemple, ou des choses de cette nature. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. On n'a pas besoin de mettre les gens à la norme pour ça, il suffit de les mettre à l'écart. Et donc on est beaucoup plus dans des logiques qui sont des logiques de cette nature-là, des logiques, disons, de suspicion à l'égard d'un certain nombre de personnes, des logiques éventuellement de mise à l'écart, ou en tout cas de surveillance, ce qui fait que on est parfois pris à contre-pied dans les référentiels intellectuels qui sont les nôtres quand il s'agit de qualifier ces politiques-là. Hein. Très longtemps, par exemple, une partie, disons, du monde du travail social et du monde judiciaire s'est articulée sur ces questions, sur l'idée qu'il y avait une alternative fondamentale qui était prévention-répression. Aujourd'hui, on est face à des systèmes qui sont massivement des systèmes de prévention et qui sont beaucoup plus du côté de la prévention que de la répression. Ils ne sont pas complètement abandonnés, la répression, rassurez-vous. Mais on est massivement du côté de la prévention. Ce sont des dispositifs préventifs. Tous les fichiers qui ont été évoqués tout à l'heure et qui, évidemment, inquiètent à juste titre, sont des fichiers dont les finalités sont essentiellement préventives, avant même d'être répressives. Et donc, on est, je crois, dans quelque chose qui est d'une autre nature, encore une fois, que le travail, que la mise à la norme, que la mise en conformité des individus. Autre chose aussi que la répression, mais quelque chose qui, alors ça on le voit très bien à travers la loi sur la récidive, on le voit très bien à travers la question de l'hospitalisation des malades mentaux dangereux, la question de la dangerosité du côté de dispositifs qui sont des dispositifs de prévention et des dispositifs de prévention qui s'émancipent des garanties ordinairement accordées aux personnes et aux individus. Parce que, précisément, en principe, la dangerosité n'est pas un concept qui est juridiquement recevable, par exemple. Il y a soit des délinquants qui ont commis des actes, soit des personnes qui n'ont rien commis et qui ne sont pas susceptibles d'être mises en cause. Dans un certain nombre de... Je change de domaine, mais pas complètement. Dans un certain nombre, vous savez qu'on a... On s'est aperçu, disons, on a pris l'habitude de territorialiser un certain nombre de problèmes ou de choses comme ça. Ouvertement, dans ses structures internes et dans son déploiement, la police parle de zones criminogènes. Des zones criminogènes, c'est des zones... Bon, ça veut dire que, d'une certaine façon, on sait que là va se passer davantage de délinquance, davantage de délits, et que donc, d'une certaine manière, on a toutes les chances de trouver ceux qu'on cherche à cet endroit-là. Un peu comme les pêcheurs qui vont chercher là où il y a des poissons, quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que, quand on voit les statistiques policières, elles sont fonction de corrélations parfois un peu bizarres, enfin. Et il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer cette question de du partage d'informations. C'est-à-dire, si le partage d'informations, il sert à être davantage dans cette logique, disons, qui, encore une fois, n'est pas d'abord une logique du contrôle social, mais plutôt une logique de la prévention généralisée, à ce moment-là, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter et éventuellement d'en dénoncer un certain nombre de dérives. Parce que ça aboutit, au fond, à déplacer complètement... les problèmes. Il y a toute une série de gens qui font finalement aujourd'hui l'objet d'une attention, alors de la police certainement, peut-être aussi du travail social, non pas parce qu'ils seraient en infériorité ou en difficulté pour telle ou telle raison, mais tout simplement parce qu'ils sont, disons, ils présentent tous les types ou tous les aspects de personnes qui seraient suspectes. Enfin, on est dans une logique de suspicion ou de stigmatisation d'un certain nombre de personnes ou d'individus. Et c'est beaucoup plus cette logique de la suspicion ou cette logique de la stigmatisation que la logique du contrôle social qui me paraît être aujourd'hui devoir être incriminée. Alors, si on cherche à voir un peu plus ce sur quoi ça repose, je crois qu'on a un transfert, au fond, des formes classiques de la sécurité, et qui sont notamment du côté de la sécurité sociale, du côté de « on va garantir de manière égalitaire à la totalité des individus une sécurité » à l'égard des grands aléas de la vie, la maladie, la vieillesse, le chômage. On va leur garantir donc une sécurité de base et, si possible, à peu près homogène à l'égard de ces aléas-là. On est passé de plus en plus vers quelque chose qui est ce que Robert Castel a appelé une forme d'insécurité sociale, c'est-à-dire précisément on baisse ce niveau des garanties générales et on pousse ou on propose aux individus de prendre des formes d'assurance individuelle par rapport à ça. Ce faisant d'ailleurs, ce qu'on défait, c'est au fond le mécanisme par lequel s'étaient instituées ces formes de solidarité collective et d'assurance collective. Vous savez que la loi, le modèle en était la loi sur les assurances, sur les accidents du travail qui avait été votée à la fin du 19e siècle et qui, pour la première fois, avait analysé et proposé un mécanisme de responsabilité sans faute. Or, au fond, on voit bien que dans ces logiques-là, assurantielles, c'est bien cette idée de responsabilité sans faute, c'est-à-dire sans qu'il y ait de faute individuelle qui puisse être assignée individuellement à un auteur d'un délit ou en tout cas d'un dommage, qu'on pouvait arriver à trouver des formes de mutualisation, précisément, de l'assurance. Alors, le modèle s'est ensuite étendu, évidemment, à l'ensemble des formes d'assurance sociale. Or, aujourd'hui, je crois que c'est ce modèle-là qui est défait, au profit, précisément, d'un côté, d'une espèce de mise en garde générale de l'ensemble de la population contre un certain nombre de dangers, et là on a des discours et des stratégies de la peur, et d'un autre côté d'une responsabilisation des individus. D'une responsabilisation des individus, alors qui prend l'objet de différents qui prend différents tours, hein, je veux pas tous les passer en revue parce que c'est pas directement le cœur de mon sujet, mais ça peut être des campagnes d'information, ça peut être des campagnes visant à ce que les personnes se prennent davantage en, et parfois de façon très, très, très sensée et très légitime, que les personnes soient davantage responsables quand elles conduisent, soient davantage responsables de leur santé en arrêtant de fumer. Mais je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas vu cette campagne-là, sans doute comme moi. Des choses de cette nature qui sont en tout cas à bien des égards tout à fait légitimes. D'autres choses qui sont quand même plus problématiques, qui consistent à essayer d'inciter les individus à, au fond, adopter des stratégies qui sont des stratégies individuelles de prévention. Or, les stratégies individuelles de prévention, c'est quoi? C'est d'une part la sécurité au sens strict, privé, avec le recours à toute une série de dispositifs sécuritaires, notamment pour les biens et les personnes, mais pas seulement. Et c'est aussi les formes d'assurance individuelle. Or, on est là dans un nouveau modèle social qui consiste à dire on va essayer, au fond, de développer des formes d'assurance individuelle pour deux raisons. D'une part, parce que ça va favoriser la responsabilité individuelle, au lieu de favoriser des formes d'irresponsabilité individuelle et donc collective et de déresponsabilisation des individus. C'est un discours, évidemment, que vous avez tous déjà dû entendre un certain nombre de fois. Et d'autre part, parce que ça permet, effectivement, d'accélérer le circuit de la marchandise. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que ça, sinon le recours à un système d'échange marchand pour pouvoir y installer toute une série de choses qui jusqu'à présent ne faisaient pas l'objet de l'échange marchand. Alors c'est vrai de la formation, c'est vrai de la santé, ça peut devenir vrai de toute une série de choses. C'est en train de devenir vrai du secteur social, on en parlait à midi, mais la prolifération au fond des logiques et des systèmes d'appel d'offres, de mise en concurrence des offres de formation, des offres de travail social associatif, par exemple, vise petit à petit à faire rentrer, disons, le système marchand dans ce secteur. Et le social est en train de devenir un marché extrêmement profitable et juteux pour beaucoup d'entrepreneurs du social. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement laisser tomber les individus qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à ce marché. Ça veut dire qu'on va les subventionner individuellement pour qu'ils aient accès à ce marché. Et on a toute une série de dispositifs qui sont des dispositifs, au fond, de subvention ou d'allocation individuelle pour que les individus puissent avoir accès au marché. Le meilleur exemple de ce système et de cette évolution, on le trouve dans le logement et dans le système que les Américains avaient mis au point pour que les plus démunis puissent avoir accès à un logement, qui était le système des subprimes. C'était exactement ça. C'est-à-dire, au lieu de faire du logement social, on va prêter à des conditions extrêmement favorables et extrêmement avantageuses à des gens désargentés, de façon à ce qu'ils aient les moyens de s'acheter un logement. Et on voit ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ça marche bien. Tant qu'évidemment, tant qu'on y croit, quoi, dans un système de ce type. Mais à partir du moment où il y en a qui arrêtent de payer et où le système s'effondre, eh bien, tout le système s'effondre. Alors, comme tout le reste du système marchait autour de ça, ça va peut-être avoir au moins un avantage, cette affaire-là, c'est que justement, ce processus de marchandisation et de responsabilisation des individus à travers des systèmes d'assurance privée va peut-être régresser un petit peu, ou du moins connaître un minimum une pause, et on va peut-être pouvoir se reposer la question de comment on assure le fonctionnement et le financement collectif de systèmes qui soient des systèmes davantage solidaires. Et ça, ça va sans doute avoir aussi des répercussions sur le travail social, sur la manière dont on le pense et sur les injonctions, au fond, qui lui sont faites par les institutions. Pardon de cette espèce d'excursus et de longue parenthèse, mais je crois que ça fait aussi partie des éléments sur lesquels on doit réfléchir, c'est-à-dire à savoir quel est le cadre général d'évolution de nos sociétés dans lequel se situe un certain nombre d'obligations. Dernier aspect peut-être que je voulais développer, puisque c'est revenu à plusieurs reprises dans le débat, et c'est peut-être à certains égards, le plus fondamental, la question au fond de la question éthique. On peut dire que jusqu'à présent, on était dans la question et politique et déontologique, mais la question éthique proprement dite, c'est-à-dire celle du rapport à l'autre, celle du rapport à la personne dans sa démarche. Alors vous avez à plusieurs reprises souligné que c'était là une dimension tout à fait importante. Et en même temps, affleurait au fond une vraie difficulté qui a été évoquée sous le nom de dissymétrie, quoi. Le fait que d'un côté, on a une personne qui est souvent en position relativement démunie, en position de demande en tout cas, ou en position de fragilité, même si elle n'est pas en demande, et puis d'un autre côté, quelqu'un qui arrive lesté du poids de toute une institution. Donc évidemment, une dissymétrie caractéristique et fondamentale. Je crois d'ailleurs que cette dissymétrie, elle est pas propre à elle est particulièrement soulignée, particulièrement vive peut-être dans cette situation-là, mais elle est caractéristique du fonctionnement général des institutions. Hein, l'élève est en posture dissymétrique par rapport à l'enseignant dans sa classe et ainsi de suite. On pourrait généraliser des situations de dissymétrie de ce type. Alors, je crois qu'on peut pas en conclure que parce qu'il y a dissymétrie, il y a inégalité. Mais ça veut dire que la question de l'égalité dans la dissymétrie est effectivement, comme quelqu'un l'a souligné, une vraie question. Un des éléments, je crois, à prendre en compte pour répondre à cette question-là, c'est effectivement la question du respect. Le respect de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que le respect de l'autre ? Parce que, évidemment, le respect de l'autre, on peut l'invoquer toujours, mais en quoi il consiste ? Il me semble qu'il y a deux éléments très importants dans cette idée du respect de l'autre. Il y a un élément qui a lui aussi été évoqué ce matin, qui est la question de comment, au fond, on va traiter l'autre. Ne pas traiter l'autre comme moi-même, je voudrais ne pas être traité, quoi. Il y a quelque part une limite fondamentale qui est de se dire est-ce que moi, je pourrais accepter, par exemple, ce que je viens d'écrire sur l'autre, ou qu'on me parle de cette façon-là.